radio Okapi.
Okapi. Okapi Service. Jody Daniel Kachama. Okapi.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième tranche de l'émission Capi Service de séjour. Merci de votre fidélité à ce magazine de la vie au quotidien. Merci à vous tous qui venez de nous rejoindre sur www.radioucapi.net. Dans cette deuxième partie de l'émission, nous allons parler de la formation à distance. Quels sont les avantages et les inconvénients? Eh bien, pour en parler, nous recevons Monsieur Pascal Chimanga, chef de département de gestion de projet à l'université Bernadette Muleka UBM. Monsieur Pascal Chimanga, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Et nous attendons aussi Madame Nathalie Manyunga, qui est doyenne de la faculté de gestion, toujours à l'UBM. Des questions et préoccupations sur la formation à distance. Composez déjà le 099-706-9941. Écrivez-nous à service@radiocapi.net. Debs Vita sur la mise en onde. Tati Mapoukou est à la coordination et à la réalisation de cette émission. Paul Badianyama assure la retransmission live sur les plateformes digitales et Radio Okapi. Et Jody Daniel au micro. Bienvenue à tous et excellente condition d'écoute de cette deuxième partie du magazine Okapi.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Bien, nous parlons à présent de la formation à distance. Vous savez, grâce à l'Internet, aujourd'hui, il est possible de suivre une formation à distance à partir de chez vous ou de tout autre lieu propice. De nombreux organismes offrent des cours en ligne accessibles à tous et couvrant un large éventail de sujets, parfois avec des certifications reconnues. Alors, quels sont les avantages qu'offre la formation en ligne et que peuvent être les inconvénients? Bien, nous allons échanger là-dessus avec notre invité Pascal Chimanga, chef du département de gestion de projet à l'université Bernadette Muleka. Monsieur Pascal Chimanga, encore une fois, bonjour et bienvenue dans cette émission Okapi Service.
Bonjour, merci de me recevoir, Jody.
Bien, alors d'abord, c'est quoi l'université Bernadette Muleka? Pouvez-vous nous présenter cette université?
L'université Bernadette Muleka, c'est une université qui offre 100% des formations à distance, des formations diplômantes et certifiantes à distance. Elle vient de naître il y a un peu moins d'une année et se prépare à lancer la rentrée académique très prochainement.
D'accord. Alors, quels sont d'abord, quand on parle de la formation à distance, des cours en ligne, avant, il fallait être présent dans la salle des classes, mais aujourd'hui, on peut ne pas être présent dans la salle.
Exactement. C'est ça la différence majeure. Il faut penser à l'enseignement à distance, un peu en relation avec l'enseignement traditionnel, pour voir en quoi elle diffère. Et un des points centraux est que, à la différence de l'enseignement traditionnel qui a lieu dans les espaces physiques, l'enseignement à distance a plutôt lieu via des environnements numériques d'apprentissage, sans que les étudiants ou les apprenants et les enseignants soient physiquement présents à un seul endroit.
Mmh. Et quels sont les avantages qu'offre ce système, cet enseignement à distance?
Alors, peut-être une bonne façon d'aborder la question d'avantage, c'est peut-être les regrouper entre l'offre et la demande de l'enseignement à distance. Peut-être commençons du côté de l'offre, du côté des institutions, des enseignants, des éducateurs. Un des avantages, c'est les coûts. C'est du côté des finances, il y a un avantage comparatif qu'offre l'enseignement à distance, en ceci que qu'est-ce que ça vous coûte d'établir l'université traditionnelle? C'est des coûts d'infrastructure, n'est-ce pas?
Il faut des bâtiments, il y a
énormément.
Oui.
Et la logistique, le transport et tout ça, c'est des coûts énormes. Et vous pouvez faire des économies avec l'enseignement à distance parce que elle a lieu à distance et elle prend appui sur des outils numériques qui sont à disposition. Et ça peut faire d'économies énormes. Ça, c'est un des avantages sur le plan de coût, de budget.
Tout à fait.
Il y a aussi un avantage en termes de l'élargissement de la couverture. C'est la portée et l'échelle de couverture de l'enseignement à distance. Pensez un peu au phénomène de massification dans nos auditoires. Combien d'apprenants on a, combien de limites nous avons avec nos auditoires. Alors, avec l'enseignement à distance, on peut élargir l'accès à un nombre beaucoup plus large, d'apprenants. Je peux exagérer, un nombre peut-être infini d'apprenants, et cela est possible. Donc ça, c'est un avantage comparatif très très important à souligner. Je voudrais dire peut-être aussi deux autres avantages. Un, c'est, on va appeler ça peut-être l'innovation pédagogique. Avec l'enseignement à distance, cela permet aux institutions, aux enseignants, d'utiliser des outils innovants, de pointe, pour enrichir l'enseignement et les apprentissages. Ça peut être des vidéos, de quiz interactifs pour enrichir l'expérience d'apprentissage. Ça peut être des forums de discussion pour les travaux collaboratifs entre apprenants. Bref, il y a pas mal d'outils innovants qui permettent l'enrichissement de l'expérience d'apprentissage et d'enseignement, et cela est mis à disposition grâce à l'enseignement à distance. Je vais peut-être finir avec un autre avantage qui me paraît très important, c'est la variété de modalités de l'offre de cet enseignement-là et de la diffusion de contenu. Donc les contenus peuvent être enregistrés, peuvent être programmés, peuvent être diffusés un peu plus tard ou rediffusés, réutilisés à beaucoup d'occasions.
Oui.
Cela permet plusieurs modalités de distribution, de diffusion de contenu, ce qui n'est pas toujours le cas dans le contexte d'enseignement traditionnel.
Tout à fait. Donc on peut suivre les cours avec l'enregistrement. Peut-être qu'on n'avait pas très bien saisi, on peut encore écouter jusqu'à bien maîtriser.
Exactement. C'est un procédé itératif. Donc on peut aller et revenir sur la même ressource. C'est un bel avantage. Je n'ai pas parlé du côté de la demande. Donc des apprenants, des étudiants ou des parents.
Oui.
Alors un des avantages côté des apprenants, c'est la flexibilité de temps et de lieu. Donc, en enseignement à distance, je peux suivre le cours à mon propre rythme, relativement à mon propre rythme, et de n'importe où je peux me retrouver. Donc, peu importe la localisation géographique, je peux continuer de suivre le cours, et cette flexibilité est un avantage énorme. Donc, que je sois à Tinzobowi ou à Katabai dans le Lomami, ou que je sois à Wembonyama dans le Sankuru, peu importe où je suis, je peux continuer de suivre l'enseignement, ce qui est un avantage important. Il y a peut-être aussi un deuxième avantage du côté de la demande, qui est celui de l'accès élargi, un peu équitable. Pensez un peu aux contraintes de travail, aux contraintes de santé ou de mobilité.
Avec les bouchons de Kinshasa, par exemple.
Kinshasa, penser peut-être aussi aux contraintes de santé. On peut avoir une mobilité relativement réduite ou limitée pour se déplacer vers des centres urbains ou vers le campus où il y a les établissements d'enseignement supérieur. Pensez un peu à des contraintes de sinistres ou de pandémies ou d'épidémies qui frappent la cité et qui nous empêchent de nous déplacer.
Déplacer, oui. Ouais.
Donc tout ça, nonobstant ces contraintes qui sont réelles, qui sont parfois récurrentes, l'enseignement à distance permet aux apprenants de continuer de suivre la formation sans interruption, nonobstant l'adversité et les certaines contraintes, que ce soit les contraintes de famille, de santé ou de travail.
Bien, je reviens à vous, le temps d'accueillir les auditeurs. Nous avons Patrick Kadiata en ligne depuis Mweneditu. Et nous avons Freud Chibwabwa de l'ISTEM d'Imbelenge au Kasai, et puis Crispin Mouri qui nous appelle depuis Uvira. Eminent Mwanda est à Bukavu. On commence avec le premier, Freud Chibwabwa. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes à Imbelenge au Kasai. Imbelenge, je pense que c'est on est au Kasai central.
Au Kasai central, oui.
D'accord. Vous avez la parole.
Le directeur de Imbelenge se trouve dans le Kasai central.
D'accord. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur la formation à distance?
Merci beaucoup. Concernant la formation à distance, a des inconvénients et aussi des avantages, bien entendu. Personnellement, je vois que notre pays, jusque-là, n'est pas encore disposé à organiser les enseignements à distance. Parce que les cas sous examen actuellement avec les nouveaux systèmes, ça pose vraiment des problèmes énormes. Vous voyez, d'abord, quand nous pouvons parler d'abord des avantages. Les avantages en est que les formés peuvent suivre les cours à n'importe quel endroit qu'ils se trouvent, là où ils trouvent vraiment mieux. Ça, vraiment, nous applaudissons, nous disons que vraiment c'est bon, ça peut aller dans ce sens-là. Deuxième avantage, en est que, au lieu, par exemple, d'effectuer de longues distances, de dépenser aussi de l'argent pour les transports et consorts, l'enseignement à distance est tellement nécessaire, ça aide dans ce sens-là. Mais il y a vraiment des inconvénients énormes. Nous parlons d'abord de la gestion des classes. Comment celui qui forme, le formateur, peut être en mesure de gérer 100 personnes au même moment lorsqu'il est en train de former. Et lors d'évaluation, lors d'interrogation ou soit des examens, parce que lorsqu'on forme, lorsqu'on enseigne, à un certain moment, il faut évaluer, il faut examiner pour savoir que les formés sont en mesure de répondre favorablement ou soit défavorablement à ce que vous avez enseigné ou pas. Lorsque vous voulez vérifier ce que vous avez enseigné. Il y a risque que les formés puissent passer par les canaux d'une autre personne pour répondre. Et comment d'ailleurs on doit même poser ces questions-là? Imaginez, en tout cas, ça, c'est vraiment difficile. Et aussi, de deux, ça demande aussi des connexions Internet et aussi du courant. Notre pays a un grand problème énorme du côté l'électricité. Nous n'avons pas vraiment du courant. Même là où nous sommes pour le moment, il n'y a pas du courant. Comment on doit être à mesure de suivre cette formation-là normalement? En tout cas, je trouve que nous ne sommes pas vraiment disponibles pour accueillir cette formation-là à distance. Parce que quand l'enseignant est dans l'auditoire, soit dans la salle, avec les étudiants, avec les formés, il a vraiment la capacité, il est en mesure de surveiller tout un chacun d'eux pour voir comment la matière est en train de se passer. C'est un peu ça, monsieur le journaliste.
Merci Freud Chibwabwa depuis l'ISTEM d'Imbelenge. Crispin Mouri, vous êtes à Uvira, bonjour, et quelle est votre question sur le sujet du jour?
Oui, bonjour monsieur le journaliste, merci à l'invité au studio. Déjà, c'est un bon sujet qui intéresse la vie nationale dans notre pays. Bien que, comme disait mon ami Chihuahua, il y a encore des choses à améliorer. Déjà, j'aimerais d'abord brièvement parler que la formation à distance donne beaucoup d'avantages. Comme par exemple, on a la possibilité d'obtenir différents diplômes dans différents domaines sans se déplacer. Forcément, déjà, on gagne en termes de temps et de temps matériel. Et également, comme a dit l'intervenant, on peut avoir cette possibilité de suivre la formation selon son rythme et selon qu'on a du temps. Et pour ce qui est des organisations internationales, surtout les organisations européennes, elles donnent beaucoup d'importance aux formations en ligne, ce qui renforce déjà les CV, surtout pour les jeunes qui viennent de finir l'université et qui ont besoin d'approfondir pratiquement à certaines choses. En termes d'inconvénients, comme je le disais tantôt, il y a ces problèmes de logistique, surtout dans notre pays, et beaucoup de centres de formation qui proposent des formations en ligne ne sont pas certifiés. C'est déjà un risque, même certains diplômes qui donnent ne sont pas parfois reconnus. Alors dans notre pays, en termes d'inconvénients également, il y a cette concentration de l'apprenant qui n'est pas très très bien concentré. Parfois il lit les notes quand il les a, ce qui est contraire par rapport à la distance, à la formation en présentiel ou à l'auditoire. Il manque aussi les documents physiques, les documents manuels. Si par exemple tu as suivi une formation à un centre qui est au Maroc et toi tu as besoin d'avoir ta certification, tu n'en as pas physiquement, alors que dans notre pays, parfois un peu partout, on te demande de venir avec un document physique. C'est la plus grande
mais on peut toujours te l'envoyer en ligne, hein. On peut toujours, oui, mais on peut toujours vous envoyer votre diplôme.
On l'envoie en PDF, mais si tu imprimes le document formant, comme je le disais, dans notre pays, on te dit non, ça c'est pas certifié, puisque le cachet entre guillemets n'est pas original. C'est toi qui comprends ce que je veux dire.
Oui, oui, je vois.
Il vient en PDF. Oui, le document est en PDF et c'est une grande problématique par rapport à ça. Je pense pour notre pays, comme disait mon ami qui l'intervenant de tout à l'heure, nous on n'est pas encore prêt à faire l'enseignement à distance. Vraiment rien n'est en place jusque là. Même dans les administrations, on n'en connaît presque rien. On utilise toujours les documents traditionnels, archaïques, et tout ce qui vient en ligne ne passe pas. J'en ai été victime dans beaucoup de bureaux. C'est peut-être ce qu'ils peuvent faire avec le ministère de, c'est pas poste et télécommunication, c'est de proposer d'avoir un logiciel en ligne qui vérifie tous les documents qui sont émis par les grands centres de formation.
Oui.
Pour qu'on ne puisse pas, je sais pas, quelqu'un a fait 2 mois en train de s'ouvrir une formation et quand il arrive dans notre pays, on te dit non, c'est pas important. Si on a un logiciel en ligne qui permet de certifier, c'est pas quelque chose comme un code QR pour pouvoir certifier tous les documents émis ici et là. Oui. Ça peut arranger les choses. Et pour ceux-là qui n'ont pas assez de moyens pour pouvoir, je sais pas, entrer à l'auditoire pendant 5 ans ou 2 ans pour suivre des formations.
Merci Crispin. Alors, merci beaucoup. Les autres attendent. Merci.
J'ai une question.
Laquelle?
À l'invité, oui.
Oui, oui, allez-y rapidement.
Est-ce que l'invité peut nous dire, les domaines selon lui pour lesquels ou dans lesquels on peut suivre des formations en ligne et les domaines dans lesquels lui ne conseillerait pas aux auditeurs de ne pas suivre des formations en ligne? Merci.
Bien, Éminent Mwanda, vous êtes à Bukavu, au Sud Kivu. Bonjour et quelle est votre question?
Bonjour, monsieur Jordi. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capitale, à l'équipe de la Sainte-Anne.
Voilà, rapidement, quelle est la question? Les autres attendent.
J'ai au moins 4 questions à poser à l'auditeur. Qu'est-ce qu'une formation en licence interne et pratique? La deuxième question, quelles sont les exigences d'une formation en licence? Troisième question, pourquoi former en licence au lieu de le faire en présentiel? Quatrième et dernière, quels sont les outils didactiques qui facilitent une formation à distance? Je ne sais pas si je peux donner quelques intervenants à ça.
Non, vous n'avez plus beaucoup de temps. Il y a Alberion qui nous attend qui nous appelle des Kasumba Lessa. Bonjour. Alberion, bonjour.
Bonjour à l'invité. Bien. Bonjour, monsieur Jody.
D'accord, vous êtes à Kasumbalesa. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur la formation à distance?
Oui, je voulais poser un peu une petite question à l'invité du jour.
Oui.
Est-ce possible de connaître si cette université est reconnue par l'État congolais?
Voilà. Est-ce que l'université Muleka est reconnue par l'État congolais? Bien, merci beaucoup pour la question. Est-ce qu'il y a une autre question? C'est là où c'est la seule question que vous avez aujourd'hui.
Oui, oui, il y a une autre question qui me vient en tête. Mmh. Si l'invité nous dit que sur le coût financier, ça diminue quand même les coûts. Maintenant, concernant les inconvénients, comme les prédécesseurs l'ont dit, qu'est-ce qu'il faut pour pallier à tous ces inconvénients qu'on venait de nous énumérer?
Bien, merci beaucoup. J'en profite aussi pour accueillir notre deuxième invité. Il s'agit de Madame Nathalie Manyonga. Bonjour, Madame.
Bonjour, monsieur.
Madame Nathalie est doyenne de la faculté de gestion à l'université Bernadette Muleka, UBM. Alors, je commence avec la dernière question. On dit, est-ce que cette université est reconnue par l'État? Est-ce que vos diplômes sont certifiés?
Eh bien, merci beaucoup pour la question. L'université Bernadette Muleka, pour commencer d'abord, je veux vous dire que nous avons déjà le partenariat avec des universités internationales qui nous soutiennent déjà, des organismes comme Microsoft avec l'ambassade des États-Unis qui nous soutiennent déjà. Mais cela n'empêche que ici à Kinshasa déjà, nous avons déjà des grandes avancées. Vous savez bien comment notre administration est un peu lente. Mais je dois vous avouer que nous avons déjà des bonnes avancées avec au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Oui, et universitaire, aussi au ministère de la justice. Mais je vous confirme que l'État congolais lui-même reconnaît la formation à distance. Et l'actuelle ministre encourage cette formation qui vient pallier à beaucoup de problèmes ici en Afrique.
D'accord.
Voilà ce que je peux vous dire.
Université Bernadette Muleka, essentiellement en ligne. Les formations se font à distance.
Je dois aussi une précision. C'est la toute première université entièrement en ligne.
Ok.
Et c'est la première université entièrement en ligne. Tout s'est fait en ligne, commençant par les inscriptions, les cours. En tout cas, tout est en ligne.
On n'a pas besoin de se déplacer pour aller à un bureau, non.
Pour les gens qui ont encore une difficulté d'utiliser l'outil informatique, pour les gens qui ne savent pas se prendre en charge, l'université a prévu aussi des formations pour ça. On a quand même une adresse ici à Kinshasa qui va permettre on a quand même un bureau physique aussi.
D'accord.
Pour permettre à ceux qui n'ont pas encore une connaissance parfaite dans l'utilisation de l'informatique.
D'accord.
De déposer les dossiers.
Et quelles sont les facultés que vous organisez?
Oui, pour commencer, nous avons une seule faculté dont je suis doyenne, la faculté de gestion, répartie en trois départements. Nous avons le département de gestion des projets dont mon coéquipier est le chef de département, Monsieur Pascal.
D'accord.
Nous avons aussi un département de coaching positif.
C'est-à-dire?
Oui, donc le coaching positif, c'est l'entraînement dans un domaine quelconque. Je vais vous donner un exemple palpable. Aujourd'hui, nous sommes butés à beaucoup de problèmes parce que, par exemple, quelqu'un qui vient, qui occupe un poste, mais qui ne connaît pas ses attributions, qui connaît pas ce qu'il doit faire, ce dont on s'attend. Alors, le coaching est très capital et je crois que ça doit être une innovation parce que orienter quelqu'un dans son domaine, dans quelque chose qu'il doit faire, je pense que c'est très capital aussi. Et puis il y a aussi le département de gestion immobilière. Nous sommes à Kinshasa. Je peux te donner l'exemple de Kinshasa. Vous savez combien d'arnaques nous avons aujourd'hui.
Quelqu'un qui, partiel,
voilà,
tout ça, ouais,
quelqu'un qui va, voir un commissionnaire au coin de la rue, dont il n'a même pas d'adresse physique. Il va comme ça, il va, il donne son argent et il dit non, je veux avoir une maison. Mon petit frère propre était victime de cela. Après. Oui. Après deux semaines de mariage, ils se sont retrouvés six colocataires pour une seule maison. Oh là. Alors, UBM a pensé à former déjà des cadres qui savent orienter la population par rapport à la gestion immobilière. Comment protéger sa parcelle? Nous sommes aussi victimes. Les papas meurent. Après, on dit que non, les documents parcellaires, là, c'était pas vrai. Ouais. Voilà, c'était le chef du quartier qui en avait produit. Un peu, voilà.
Oui, ça crée trop de conflits.
Les trois départements clés, qui sont au sein de la faculté de gestion, à l'université Bernadette Moulika.
D'accord. Vous pouvez le rappeler? Vous avez parlé
Oui, je parlais de la gestion des projets, le coaching positif et la gestion immobilière.
Oui. Voilà. Monsieur Pascal, vous avez ajouté par rapport à ce qu'elle a dit?
Non, c'est très bien brossé. Merci Nathalie d'être venue et d'avoir donné cette précision. Merci bien.
D'accord. Vous avez suivi les différentes préoccupations des auditeurs. Il y a quelqu'un... Chibwa, voilà, depuis Dimbelenge, qui dit, il y a un problème, il a relevé beaucoup plus les inconvénients de la formation à distance. Il y a un problème de la connectivité, problème d'électricité, puis, le nombre d'apprenants, d'après lui, ça peut pas marcher ici chez nous.
Très bien.
Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Très bien. Non, ce sont des défis, importants et je partage cela avec Fred Chibwa. La question de suivi des apprenants mérite d'être clarifiée parce que pour en termes d'assurance qualité et assurer que l'enseignement est donné et suivi dans les conditions qui permettent la validité de l'offre et la rigueur, ce qui est fait, c'est que on établit des tuteurs, donc des encadreurs, des enseignants qui ont un quota d'apprenants pour permettre un suivi individualisé. Donc on peut allouer une vingtaine d'apprenants à un tuteur qui lui va faire ce suivi individualisé pour permettre aux apprenants d'avoir une expérience enrichie et un suivi de proximité. Et ça, c'est une des pistes en termes de configuration du dispositif d'accompagnement des apprenants. Alors, il y a aussi, bien entendu, en termes d'évaluation, par exemple, les évaluations formatives, les interrogations, les devoirs, les quiz et tout ça, les plateformes qui permettent l'enseignement à distance peuvent être configurées de manière automatisée. Ça peut gérer des quiz de manière automatisée, mais aussi... en termes d'évaluation sommative, par exemple, pour des examens de fin de parcours ou d'année.
Oui.
Il y a beaucoup de dispositifs de sécurisation, de surveillance,
pour éviter la tricherie, tout ça.
D'examen. Une des pistes, c'est peut-être faire l'examen avec votre webcam, caméra de
activé. Ouais.
C'est aussi quelquefois avoir des centres d'examen surveillés à proximité du lieu où vous êtes. Par exemple, si vous êtes à Kinshasa, on peut imaginer que pour un examen, on peut vous demander de vous déplacer, aller à un centre de surveillance. Ça, c'est aussi faisable. On l'a fait ici à Kinshasa avec le campus numérique francophone de Kinshasa, qui a servi de centre d'examen pour certaines formations à distance. Donc, bref, ça peut être une vidéoconférence pour des questions libres. Il y a beaucoup de moyens de garantir que les conditions de passation d'examen sont rigoureuses et permettent la validité de la sanction.
Monsieur Pascal, la question, ce thème intéresse énormément les auditeurs. J'ai encore 3 ou 4 qui sont en ligne. Vous permettez qu'on puisse les recevoir rapidement et ensuite vous allez répondre à leurs préoccupations. Joseph, vous êtes à Likassi. Et puis nous avons Chrysostome à Arou, Blaise Saïdi à Kisangani et Guy nous appelle de Mbandaka. Joseph Delicassi, bonjour et quelle est votre question? Merci d'être bref dans vos interventions. Bonjour Joseph. Allô? Allô Joseph?
Allô?
Bonjour, quelle est votre question?
Oui, allô, allô?
On vous
Bonjour Radio Kopi, bonjour à l'invité.
Bonjour, on vous écoute. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'enseignement à distance?
Oui. Malheureusement, ici, si on a coupé la signal depuis la 5e minute, mais vous allez intervenir par expérience. Mais si je vous écoute bien, il s'agit que les problèmes des services de l'État, cadastro, ou bien les urbanisations et les habitats, c'est pas comme ça?
Non, on parle plutôt de l'enseignement à distance. On parle pas de l'urbanisation ou de... c'est pas une affaire des maisons, tout ça, des parcelles. On parle plutôt de l'enseignement à distance. D'accord, merci d'avoir
appelé. Une seule question.
Oui, laquelle?
Par rapport à quoi? Ok. République démocratique du Congo est un pays souverain, régit beaucoup de lois et beaucoup de ministères à cette question. Et si les choses parviennent encore pour le ministère des choses, il est là. Je demande à l'invité, que dit la loi congolaise par rapport à ça? Qui travaille nos ministères par rapport à choses qui nous arrivent de faire des conflits comme toutes choses qui ne marchent pas. Mais je pense que...
D'accord. Joseph, je pense que vous êtes au sujet. On retient quand même votre proposition. On va aborder cela dans une autre émission. Merci. Chrysostome depuis Arou. Bonjour. Quelle est votre question sur l'enseignement à distance?
Oui, monsieur Jordi. D'abord, je tiens à féliciter les initiateurs de cette idée. C'est tout des visionnaires. Il faut vraiment les encourager. Mais comme mes prédécesseurs l'ont soulevé, nous ne sommes pas encore prêts à accepter cette idée. Parce que, vous savez, l'escroquerie qui bat son plein actuellement ne peut pas nous pousser à... Si l'invité peut nous clarifier la crédibilité de leur système d'assurance à distance. Je crois, nous allons d'ailleurs nous plonger. Vous savez, nous sommes trop loin de la situation. Nous avons aussi envie d'élargir nos études, nos compétences, mais ce qui nous fait parfois peur, c'est la crédibilité, la sérieuxité d'État. Est-ce que l'invité peut nous rassurer que nous n'allons pas nous faire escouter comme c'est l'habitude?
Bien, merci. Quelle est la crédibilité de l'université? Bernadette Mouleka, on va en parler tout à l'heure. Merci. Blaise Saïdi, vous êtes à Kisangani. Bonjour, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, merci cher Jody. Bonjour à l'invité, auditrice et auditeur de la radio Kapi, bonjour. Cher Jody, je pense bien que mes prédécesseurs ont presque beaucoup parlé au regard de ces défauts, de l'enseignement à distance.
Oui.
Oui que non, on veut se conformer aux normes internationales, mais en interne, il y a assez de soucis que les prédécesseurs ont déjà évoqués. Néanmoins, je dois aller tout juste à quelques questions. À l'invité, la première question, comment mesurer l'efficacité d'une formation à distance par rapport à une formation à présentiel? La deuxième question, dans quel domaine la formation en ligne est-elle la plus adaptée? Et pour citer, quels sont les outils ou les plateformes qui favorise une meilleure interaction à distance? Voici les trois questions que l'invité peut quand même éclairer l'opinion, cher Jody. Merci.
Bien, merci. Guy, vous êtes à Mbandaka, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour aux invités.
Quelle est votre question?
Oui, ma question, c'est que je voulais savoir si l'invité peut nous définir l'espace d'action. Si c'est seulement pour le Congo, l'université, ou c'est pour ben, c'est pas l'espace ici peut définir. Et s'il y a seulement 6 points, que c'est pour Congo, est-ce que la couverture déjà de la connexion Internet au Congo, ça pose le problème? Et s'il y a la couverture qui pose un problème, c'est-à-dire que c'est pas opportun pour le moment de pouvoir songer peut-être à ça, s'il y a un problème de connexion, s'il y a un problème de couverture de l'Internet. Et dans la plupart des cas ici, c'est on utilise plus le réseau, téléphonique pour se connecter. Et là, il y a aussi un problème, il y a une stabilité de réseau partout, il y a la couverture de la réseau, bien entendu, mais la connexion Internet avec le réseau qui dit université en ligne, qui dit aussi une bonne connexion. Déjà, il y a un problème de la connexion. S'il faut utiliser, passer par partout, peut-être la couverture, mais oui, pour le réseau téléphonique. Mais là, maintenant, la stabilité des réseaux, s'il faut vous connecter, il y a un problème. Donc, s'il fallait déjà penser, si le gouvernement dit que le gouvernement sait, il connaît l'université, donc les gens devraient déjà préparer, que s'il y a lieu, s'il y a quelqu'un qui a la bonne volonté de le faire autant, et que l'environnement soit aussi favorable, parce que sinon,
merci,
c'est très peut-être profitable à ceux qui ne sont pas au Congo,
d'accord,
ceux qui sont ailleurs.
Merci beaucoup.
Parler de l'espace, oui. Okay.
Merci Guy. Madame Nathalie, vous avez la parole.
Ok.
Vous avez suivi les différentes préoccupations. Oui, il y a quelqu'un qui a dit, mais est-ce que c'est pas quelle est la crédibilité de l'université Bernadette Moleka, parce qu'il y a beaucoup de cas d'escroquerie, etc.
Bon, il n'a pas tort. Il est dans ses raisons, parce que on ne peut pas s'engager comme ça dans quelque chose sans avoir de crédibilité. Mais moi, je dois dire que, pour me répéter, que si nous avons déjà le soutien des organismes internationaux, donc je peux, par exemple, le recteur de cette université, il est professeur des universités aux États-Unis. Mmh. Donc il y a déjà cette confiance-là qui peut les activer. Hormis cela, l'État congolais, parce que j'ai suivi aussi une question là, pour dire si l'État, qu'est-ce que l'État dit par
rapport à ça. Est-ce que l'État vous reconnaît, tout
ça? L'État congolais nous reconnaît. Je vous ai dit qu'on a déjà des avancées, bien que nous n'avons pas encore des documents finaux, mais quand même nous avons des avancées. Nous avons eu plusieurs rencontres avec la ministre. Nous avons même des accusés de réception. Alors, ils ne doivent pas se réserver par rapport à ça. Mmh. Et puis, une autre question de la formation, c'est quoi la différence entre la formation à présentiel et
la formation à distance.
Mmh. Bon, je peux commencer par un exemple banal. Je sais qu'il n'y a pas longtemps, nous avons connu un tsunami ici à Massina.
Les inondations qui
voilà, oui, c'est pour exagérer que je dis, il y a eu des inondations. Oui. Il y avait des véhicules qui pouvaient pas traverser. Il y avait des étudiants qui ont fait un mois, deux mois à la maison sans accéder aux cours. Parce qu'ils doivent se déplacer, aller se réunir dans un auditoire, attendre un professeur devant. Mais déjà, ça, nous, dans la formation en ligne, c'est déjà exclu. Mmh. Donc, l'étudiant est maître de son temps. Vous pouvez, il y a plusieurs manières, comme mon coéquipier venait de le dire, il y a des vidéoconférences, il y a aussi des cours. Vous avez votre programme des cours et vous enregistrez vos cours selon votre emploi du temps. Mmh. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer. Ça, c'est déjà un avantage. Je vais vous donner notre avantage. Quand nous étudions, il y avait des élèves qui disaient que non, moi j'aime l'avant-midi, j'aime l'après-midi, j'aime voilà. Mmh. Mais vous vous soumettez dans une obligation. Le prof commence au cours à 8h. Pendant que à 8h, Madame Nathalie, ses nerfs ne sont pas solides pour suivre les cours à 7h-là. Mmh. Le professeur a programmé son cours à 14h, pendant que X ne peut pas être disponible à 14h. Devant les cours en ligne, vous n'avez pas toutes ces obligations-là.
Il n'y a pas toutes ces contraintes-là. Hein.
Vous n'avez pas ces contraintes-là. Mmh. Et puis, vous voyez, aujourd'hui, je m'excuse d'abord pour ces grands retards, c'est les embouteillages aussi. C'est stressant.
Oui.
C'est très stressant. J'ai fait 2 heures assise comme ça.
Dans les bouchons.
Dans les bus.
Oui.
Voilà.
Or, et, avec les cours en ligne,
avec le cours en ligne,
à partir de chez vous,
dans votre chambre.
Oui,
vous pouvez même avoir votre téléphone. Mmh. Vous vous dites que non, je dois suivre le cours. L'ordinateur n'a pas de charge ou quoi. Il y a aujourd'hui même des panneaux solaires. En anglais, on dit where there is a will, there is a way. Donc, celui qui peut, celui qui veut peut. Donc, on a toutes ces contraintes qu'on énumère là, la mauvaise connexion,
le taux de pénétration d'Internet,
mais,
tout ça.
Mais voilà qu'on doit quand même dire que nous avons, à notre époque, on n'a pas connu des fibres optiques, on n'a pas connu des Wi-Fi, on n'a pas connu... Il y a quand même une innovation, mais je vous dis que IBM n'a pas mis toutes ces contraintes de côté. Qui va aller loin, prépare sa monture. Donc, nous sommes déjà engagés pour pénétrer même les étudiants de Kasumbalesa, même ceux qui sont au fin fond là.
Mais le grand problème reste la connexion Internet.
Oui, bien sûr. C'est pour ça que je vous dis que on ne vient pas comme ça aveuglément. Donc, toutes ces contraintes-là, nous-mêmes, nous les connaissons et nous promettons que nous allons vraiment en arriver avec l'aide aussi de la population privée.
Il y a aussi l'électricité, quelqu'un en parlait du courant, on n'a pas de courant, ils n'ont pas de courant, il n'y a pas de bon, vous avez parlé de l'énergie solaire. On peut utiliser d'autres formes d'énergie. Monsieur Pascal Chimanga, qu'est-ce que vous avez ajouté bon par rapport aux préoccupations des auditeurs?
Tout à fait. Donc la question de disparité d'accès à Internet, la couverture du réseau et de l'énergie, elle est essentielle. Ça, c'est clair. Selon qu'on est dans un centre urbain, périurbain ou rural, on a des niveaux d'accès différents. Ça, c'est important à mentionner. Cependant, comme Madame Nathalie l'a dit, dans la configuration du dispositif de formation à distance de UBM, on réfléchit sur comment offrir une expérience la plus équitable possible, tenant compte de ces disparités d'accès aux ressources et aux environnements qui sont peu ressourcés. Par exemple, un des modèles auxquels on pourrait penser, c'est des centres de ressources délocalisés ici et là pour permettre aux étudiants qui sont dans certains accès, dans certaines zones difficiles d'accès, de pouvoir trouver un lieu de regroupement et trouver une connexion décente et avoir accès à certaines ressources et à un accompagnement humain quand c'est nécessaire. Donc, on réfléchit sur des modèles des espaces et des endroits qui sont un peu à faibles ressources, qui sont en difficulté pour donner une expérience la plus équitable possible. Alors, je voudrais revenir sur la question de la validité de l'offre de l'enseignement à distance et de la sanction dans le diplôme qu'on peut obtenir. Une des façons d'aborder cette question, c'est de regarder au cadre réglementaire et référentiel de notre secteur d'éducation à RDC. La loi cadre de l'éducation nationale de 2014 reconnaît l'enseignement à distance comme une modalité fondamentale de l'éducation nationale. Ça, c'est un jalon posé qui est important à garder à l'esprit. Et très récemment, on l'a souligné, il y a beaucoup de vagues d'intérêt manifestées par les différents ministères sectoriels et qui ont culminé en la signature de beaucoup de décrets ministériels, que ce soit l'enseignement supérieur ou l'éducation nationale. Il y a des décrets qui organisent et qui régulent le fonctionnement de l'enseignement à distance et les conditions à réunir pour l'offre de l'enseignement à distance. Donc ça, c'est déjà des progrès énormes sur le plan réglementaire, institutionnel, qui plantent les décors pour un enseignement à distance.
Quelqu'un a dit tout à l'heure, par exemple, s'il faut obtenir son diplôme en PDF, on vous envoie un document en PDF pour l'imprimer. Ailleurs, on n'accepte pas. Hein, comment obtenir son diplôme après, à l'issue d'une formation en ligne?
Donc il y a une gamme large, une variété de façons de procéder. À défaut d'un PDF ou d'un envoi électronique du document qui sanctionne la fin d'un parcours, comme dans mon expérience, je suis un produit de l'enseignement à distance.
Okay.
Donc l'université a dû envoyer par la poste ou par DHL selon le cas, le diplôme physique. Donc on peut vous envoyer une version électronique et si vous le souhaitez, on peut,
on vous envoie aussi,
on peut vous envoyer la version physique, si besoin est.
Mais quelqu'un a posé la question de savoir, est-ce qu'avec UBM, on peut suivre les cours de partout où on est à travers le monde? Peut-on suivre les enseignements partout où on se trouve?
Partout où on se trouve, au-delà des frontières de la RDC également. Donc c'est une offre ouverte à tous, que vous soyez à l'intérieur du pays ou en dehors du pays. C'est même ça aussi l'avantage de l'enseignement à distance. Donc les barrières géographiques s'estompent,
oui.
C'est important.
Et quelqu'un a dit qu'il y a un problème de concentration lorsqu'on suit les cours en ligne. Parfois, on est distrait, on n'est pas très très concentré. Qu'est-ce que vous pouvez répondre par rapport à cela?
Ça, c'est une question essentielle. Et je peux parler de mon expérience en tant qu'ancien apprenant en formation à distance.
Oui.
Un des avantages de l'enseignement à distance, on va parler peut-être de l'autodiscipline et de c'est se préparer à une vie un peu plus autonome et à s'organiser, à bien gérer son temps. C'est un élément important. Et l'enseignement à distance permet de favoriser cette compétence là-bas, qui est une compétence importante qu'on devrait acquérir tous. Donc, mais il y a des outils innovants qui permettent la rétention de l'attention des apprenants. C'est le cas des forums d'échanges collaboratifs. Dans beaucoup de formations que nous donnons, il y a des travaux collaboratifs que les apprenants doivent faire ensemble à deux ou à trois. Et cela permet non seulement une expérience de collégialité, de communauté d'apprentissage avec les autres apprenants des autres coins du pays ou du monde, mais aussi un élément de contrainte parce que, bon, les devoirs ou les TP ou les quiz sont à soumettre à un certain délai. Donc, il y a un devoir croissant de travailler pour soumettre un travail sous les contraintes de temps pour un quiz ou un devoir. Donc, mais il y a aussi d'autres outils innovants. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les rencontres synchrones. Ça veut dire que même si vous avez la latitude de gérer votre temps, mais il arrive dans l'expérience en tant qu'apprenant que l'enseignant dise que bon, à X date, à telle heure, on a une heure de rencontre synchrone où on peut en temps réel échanger sur un sujet spécifique. Alors, tout le monde, connectez-vous à cette adresse. Je répondrai à toutes les questions.
On envoie un lien on peut se connecter.
Et ça, c'est des éléments, des outils qui permettent d'engager les apprenants, de les maintenir motivés et assez attachés à leur parcours académique. J'ai mentionné aussi même s'il y a de la flexibilité, mais il y a relativement un niveau élevé de contraintes dans une session de formation. Par exemple, si c'est une année académique qui commence à telle date et qui se clôture à telle date, il y a au cours de l'année académique des évaluations formatives, il y a à la fin des évaluations formatives, et elles ont des délais, ces évaluations. Donc, c'est un élément de contrainte qui vous permet aussi, même si vous avez un peu de flexibilité,
mais il faut respecter
de vous organiser,
ces délais-là.
De respecter ces délais et de rester engagé.
Bien, on va accueillir bienvenue Kinkala de Kikwit. Bonjour.
Bonjour Charles, je dis bonjour à tout le monde.
Quelle est votre question? Bienvenue.
Oui. Tout d'abord, je salue la radio pour la thématique du jour. Et aussi, par rapport à ce que les sujets par rapport à la formation en distance, oui. La formation en distance offre plusieurs opportunités. Peut-être quelqu'un n'avait pas de moyens pour aller faire les études en présentiel. À partir de sa maison, facilement, il peut rehausser son niveau et puis avoir les titres qui peut le permettre aussi à travailler ou à faire fonctionner d'autres histoires. Mais néanmoins, moi, je me situe dans le contexte qui est le nôtre, dans notre pays, où la connectivité pose un peu problème partout. Quand vous êtes à Kinshasa, par exemple, le débit de la connexion n'est pas le même que lorsque vous êtes ici à Kikwit ou dans les villages. Où il y a des fois, les gens doivent suivre la formation au même niveau. Quand vous avez déjà une connexion qui n'a pas un bon débit, ça vous pose problème déjà pour comprendre les matières et puis pour être à la même diapason que vos collègues. Aussi, est-ce que les formations en distance, les gens aussi échouent parce que Je sais bien qu'en tant qu'enseignant, l'objectif de l'enseignement, c'est pas que les enfants échouent.
Oui.
Mais néanmoins, nous savons qu'avec la formation en distance, il y a un peu, excusez-moi le terme, un peu, une certaine largesse. Une certaine largesse. Si on sait bien, tel que dans notre pays où les gens étudient souvent pour avoir les diplômes, mais pas pour avoir des compétences nécessaires. Est-ce que ce genre de formation ne réduit pas tellement le niveau de notre formation? Voilà un peu une seule question où je pouvais poser.
Merci, bienvenue, Madame Nathalie Manyonga, vous avez la parole.
Merci beaucoup, merci pour la question, elle est pertinente. Bon, je vais répondre à notre ami de Kikwit, que commença d'abord par la connectivité, on en a déjà parlé. Nous savons que ces problèmes-là existent, mais on ne va pas croiser les bras. On voit quand même, tout le monde dit c'est notre pays ici, mais nous voulons nous développer. Donc le développement, c'est d'abord personnel. C'est d'abord, Monsieur Pascal a parlé de l'autodiscipline. La discipline personnelle elle-même d'abord nous permet d'évoluer. Si chacun apporte une pierre à l'édifice, comment il fait pour nous atteindre? Comment il fait pour avoir être en ligne à tout moment, causer avec ses amis sur WhatsApp? Ce sont des efforts que nous devons tous fournir pour suivre la formation. La deuxième question. Il parle de il demande si en suivant la formation en ligne on peut jouer aussi, bien sûr. Pourquoi pas? Parce que quand vous suivez la formation, vous avez des évaluations. Donc si vous ne vous disciplinez pas de suivre tous vos cours, moi je peux dire que la formation en présentiel n'offre pas beaucoup d'opportunités comme celle en ligne. Parce que la formation en ligne, vous êtes seul devant vos notes, c'est la décision que vous donnez. Vous avez un temps imparti pour suivre, vous lisez, vous pouvez suivre
le cours. Bienvenue dit que les gens n'échouent pas souvent, il y a un peu de trop de...
C'est faux.
C'est faux. Hein?
Parce qu'il y a des évaluations, il y a des évaluations à chaque étape, il y a des évaluations. Et puis, c'est par compétence. Je peux vous dire que la tricherie en présentiel est facile qu'en ligne. Parce que, par exemple, vous avez des cours, peut-être vous n'avez pas les mêmes compétences des cours. Oui. Donc, les cours, vous suivez chacun selon son domaine.
Madame Nathalie, on est presque à la fin de l'émission. Alors, pour ceux qui veulent en savoir plus, avoir des informations sur l'université Bernadette Muleka, est-ce qu'il y a, on peut aller sur Internet, votre site ou un numéro de téléphone, un contact, disons?
Oui, nous avons un site web. Nous avons un site web sur lequel on peut avoir toutes les informations sur UBM. UBM, c'est www.ubm.ac.cd. Donc, n'hésitez pas, consultez. Nous avons des informations à chaque minute que je suis sur notre site. Donc, vous aurez
www.ubm.ac.cd.
Oui.
Et pour les inscriptions, pour ceux qui sont tout est sur le site.
Oui, hein, je peux un peu, si j'ai avoir même 30 secondes, je peux donner rapidement la procédure d'inscription. Donc l'inscription, c'est vraiment facile. Notre inscription se passe en 3 étapes. Vous avez dès que vous accédez à notre site, vous êtes en face d'un formulaire. Le formulaire que vous pouvez aussi imprimer, parce que là on vous donnera une adresse physique sur laquelle vous pouvez déposer. Et là, vous devez remplir le formulaire en ayant aussi des accompagnateurs. Nous avons des gens qui assurent les suivis de chaque candidat si vous avez des difficultés. Après avoir rempli les formulaires, vous le soumettez à l'université. L'université vous envoie une liste de certains documents que vous devez
soumettre
parce qu'on ne va pas prendre des gens comme ça qui n'ont jamais eu des
diplômes. D'accord. Alors...
Et puis à la fin,
oui.
Vous allez recevoir un mail
qui confirme
votre inscription.
Merci beaucoup. Madame Nathalie Manyonga, merci. Je rappelle que vous êtes doyenne de la faculté de gestion à l'université Bernadette Muleka. Merci également à monsieur Pascal Chimanga, chef du département de gestion des projets à l'UBM. C'était un plaisir de vous recevoir.
Plaisir partagé.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine. lancer?